Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Maëva.
Je vais bien.
Génial.
Romain.
Et Romain. nous sommes jeudi soir, nous sommes pour conversation, évidemment.
Tout à fait. Maëva,
je suis ravie de t'avoir là.
Bah oui, je suis contente aussi.
Bah oui,
attends. Quand on en parlait.
Évidemment. Ça, franchement, ça fait un an qu'on en parle.
Exactement.
Genre, Maëva, faut que tu viennes. Oui, mais là, je peux pas parce que du coup, je pars à San Francisco.
Oula. Bonjour, bonjour. Ça va, c'est toi aussi.
Hein. La dernière fois qu'on s'est vus, on rentrait tous les deux de. On peut se la péter quand même. Moi, je rentrais de Los Angeles et toi, tu rentrais de San Francisco.
Il y avait et par hasard, on s'est trouvé à l'aéroport.
Ouais.
Et ça, c'était
stylé. Et ça, c'est quand même stylé.
Voilà.
Vraiment par hasard. Et là, on s'est dit, il faut que tu viennes. Et là, pour la première fois, tu as fait, OK, je vais regarder. Peut-être que j'ai de la dispo. Qui es-tu, Maëva Tordeau, pour qu'on fasse connaissance avec toi? Parce que j'ai un peu annoncé le double sujet art et entrepreneuriat.
C'est vrai.
Parce que tu incarnes ce sujet-là, je pense qu'on peut le dire. Bon, on va faire connaissance avec toi.
Je m'intéresse clairement.
Qui es-tu?
Vaste question. Déjà, j'ai envie de. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand on s'est rencontrés, en fait.
Ouais.
On s'est rencontrés à un start-up week-end dédié aux médias.
Ah, bah, que j'organise les médias.
Que tu organises les médias.
Ah, bon, ça existe, ça. C'est vrai, c'est vrai.
Et
je t'avais envoyé un mail pour dire est-ce que tu peux venir, et tu étais venu à ce moment-là. Et tu sais qu'on s'était vu avant avec Willy Brown, au Willy, et on était venu à la Blue Factory, qui est donc. L'incubateur de l'ESCP où tu travailles.
Exactement.
Où tu es, on dit quoi? On dit que tu es directrice, tu es fondatrice, tu es gourou, tu es.
Moi, sur Facebook, j'ai mis que j'étais Wand de Baguette Magique.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de casquettes. Mais oui, non, je dirige la Blue Factory, que j'intitule même sublimateur de start-up.
Okay.
Et du coup, en préparant notre échange, je me suis dit que c'était un angle aussi qui pouvait servir. Sublimateur de start-up, en fait, l'idée, c'est que la Blue Factory, donc je m'en occupe depuis 6 ans.
Ouais.
Et à ce moment-là, en fait, il y a 6 ans, l'entrepreneuriat n'était pas encore
hyper développé. Je t'écoute, je vais juste
prendre
la caméra. Mais je suis... C'est du live, hein, en fait. C'est juste que je trouve qu'on est complètement surex.
On est surexposé.
On est surexposé, les amis.
Bon, en même temps, ça nous va bien. Hein.
Ouais, nous, tout ce qui est lumière, brillance, tout ça, quoi.
C'est ça.
Et donc, la Blue Factory, sublimateur de start-up.
Donc, la Blue Factory, sublimateur
de start-up. Ça change de l'incubateur et de l'accélérateur, quoi.
C'est un peu l'idée, ouais. C'est que, donc en fait, moi j'ai repris la Blue il y a 6 ans et ça faisait déjà. Enfin, moi j'ai commencé en fait il y a 10 ans à m'intéresser au milieu d'entrepreneuriat parce que j'ai eu la chance d'être embarquée par Jacqueline Fent et Sylvain Bureau dans la création de la chaire entrepreneuriat à l'ESCP.
Ok. Tu sais que ta phrase est très longue là.
C'est vrai, mais en même temps je parle très très vite, donc je suis absolument désolée. Et à ce moment-là, je m'étais pas mal baladée dans tout ce qui était incubateur, accélérateur, coworking space, qui était en train d'émerger, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, même 6 ans, c'était quand même vraiment le début.
Ok.
Et ce que j'avais pu observer, c'était que toutes les structures d'accompagnement étaient très centrées sur les projets. Et en créant la Blue Factory, enfin, en la développant à l'ESCP, qui est une école, moi je m'intéressais beaucoup plus à l'entrepreneur, la personne en fait, et à l'aspect éducatif qu'il pouvait y avoir dans un endroit où on se lançait dans son projet. Et donc tout l'accompagnement de la Blue Factory, c'est d'abord concentré sur l'entrepreneur, et donc les entrepreneurs parce qu'ils sont en équipe, et comment est-ce qu'à travers un programme d'un an, on peut aider des personnes qui portent des projets à devenir meilleurs dans cette capacité à porter des projets à plusieurs.
Okay.
Donc ça implique, au-delà de la partie accompagnement sur le projet, à savoir business model, business plan, commercial, etc., ça oblige à s'intéresser à l'entrepreneur lui-même, en fait, qui est quelqu'un qui va vivre une aventure un peu particulière parce qu'il va sur des chemins qui sont inconnus et incertains.
Et ça fait sens parce que souvent, un investisseur, il met de l'argent sur une problématique et non pas une solution. Et puis, deuxièmement, il met de l'argent sur un humain.
Bah oui,
sur
c'est des ça. Humains. C'est toujours la grande blague qui dit un investisseur investit sur l'équipe. Quoi d'autre? L'équipe. Quoi d'autre? L'équipe. Quoi d'autre? L'équipe. Quoi d'autre? L'équipe. Donc, effectivement, c'est pas inventé, cette histoire de se concentrer sur l'entrepreneur, mais en appelant la Blue Factory un sublimateur, l'idée, c'était vraiment d'insister là-dessus. Et puis, il y avait aussi un aspect un peu poétique, parce que, du coup, quand tu disais qui je suis, dans mon parcours d'études, le fait d'avoir fait des études littéraires, notamment une Hippocagne, une Cagne, c'est quelque chose qui me constitue parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée de travailler sur les lettres, la philo et l'histoire. Et donc, dans l'entrepreneuriat, j'avais à cœur d'insérer ça. Et donc, dans le storytelling, dans l'histoire de la Blue Factory, pour moi, c'était important aussi. Et le terme de sublimateur est issu de plusieurs choses. Bon, il y a la sublimation scientifique qui amène à sauter un état. Et donc, il y avait un côté, est-ce qu'on pouvait pas faire avancer l'entrepreneur un peu plus vite?
C'est beau, ça.
En lui faisant passer un état. Mais il y a aussi la sublimation dans la psychanalyse.
Ouais.
C'est d'abord
c'est la psychanalyse.
En fait, dans la psychanalyse de Freud, il y a toute une réflexion autour de la transformation des pulsions de vie en œuvre. Et donc, la sublimation serait la transformation de pulsions de vie en œuvre d'art. Et puis, dans la psychanalyse plutôt jungienne, qui est donc un psychanalyste qui a suivi Freud, lui, il travaille beaucoup plus sur l'idée que dans l'inconscient des personnes se trouvent en fait toutes les richesses de leur capacité à créer. Et d'accord. Donc, la sublimation serait d'aller chercher dans l'inconscient ce qu'on va mettre dans le conscient. Et donc, l'entrepreneur plongerait dans l'inconscient pour mettre à jour les créations qui lui sont propres.
Et bien, ce que je trouve fantastique, et tu viens de le mettre là, et ça va être tout le fil de la discussion, c'est que beaucoup regardent la Silicon Valley comme le lieu de l'entrepreneuriat. Et je trouve et souvent, on bâche un peu la France pour dire il y a moins d'investisseurs, il y a moins de dynamisme, c'est plus compliqué et compagnie. Et je trouve qu'en France, on a cette chance d'avoir une espèce de culture qui fait qu'on associe, et c'est le thème du débat, mais entrepreneuriat et art. Et c'est pareil. Alors du coup, il y a un autre personnage de la scène start-up française ou parisienne qui s'appelle Oussama Hamar. On l'aime, on l'aime pas. Moi, je l'aime parce que du coup, je pars du principe qu'il dit quelque chose, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais t'es obligé d'avoir un fondement ou un raisonnement. Mm. Là où t'as une pensée molle un peu parce que tout le monde est là genre « oui, c'est pas mal ». Bon, lui, il dit « j'aime ou j'aime pas ». Et Oussama, dans le podcast, on en parlait d'ailleurs de Nouvelle École.
Ouais.
Il parle énormément, tu vois, par exemple, du développement de l'Empire romain et comment est-ce qu'on arrive à prendre des best practices de ce qui s'est passé dans l'histoire pour comprendre un peu mieux comment on vit. Et je trouve qu'il n'y a aucun entrepreneur américain qui arrive à avoir cette nuance et ces sources ou ces références qui font que tout d'un coup, on a un autre regard sur l'entrepreneuriat et sur ce qu'on développe en ce moment. Et je trouve ça cool que tu parles effectivement de la philosophie ou presque de la psychologie pour comprendre la sublimation de l'entrepreneur, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive de passer d'un état à l'autre en tant qu'entrepreneur. Et toi, du coup, donc comment ça marche? La Blue Factory, tu as peut-être montré un visuel, ça ressemble à ça, la Blue Factory. Ça, c'était tu l'as mis pour la saison 17, parce que donc il y a eu 17 saisons.
Oui, effectivement. Donc en fait, la Blue Factory, elle a commencé en 2003. Okay. À l'initiative d'alumni de l'ESCP, en fait, on constate assez vite que les projets innovants dans les écoles, en fait, viennent d'alumni qui sont sur le terrain et qui, à un moment donné, viennent voir l'école et disent « Eh, Coco, là, il va falloir se mettre à s'intéresser à tel sujet ». Et donc, 2003, c'était le cas. Des entrepreneurs qui étaient issus de la bulle Internet des années 2000 sont allés voir l'ESCP et ont dit « Là, il faut absolument faire un incubateur, c'est en train de pousser partout aux États-Unis, il faut faire quelque chose okay. ». La Blue Factory est née. Et donc ensuite, moi, je l'ai récupéré en 2012 pour faire un programme à proprement parler, là où avant, c'était plus un espace de coworking. Bah, c'était le prototype, en fait, du projet.
D'accord.
Sur l'image, on voit une sirène qui est donc le logo de la Blue Factory. Et juste pour faire le lien avec la sublimation, dans la psychanalyse, l'eau est associée à l'inconscient. Et donc, okay. En fait, la sirène est un être qui peut plonger dans l'eau, donc plonger dans l'inconscient, mais qui est aussi quand même capable, comme on voit la petite sirène sur un rocher, de sortir à l'air. Et donc, ça, c'était un peu le symbole qui permettait de représenter cette capacité de l'entrepreneur à aller dans son inconscient et revenir dans
c'est
son conscient.
C'est tellement bien. Est-ce que quand tu as repris la Blue Factory, tu avais déjà tout ce recul et toute cette réflexion sur ce qu'était l'entrepreneuriat et tout le côté humain, ou pas du tout? Tu t'es lancé là-dedans et c'est justement à force d'avoir travaillé avec eux que tu as réussi à te forger justement tout cet univers autour de l'entrepreneuriat?
Je dirais que c'était une intuition évidente pour moi, c'est-à-dire que en 2012, quand j'ai appris la Blue Factory, avant ça, déjà, ça faisait 3 ans que j'étais allée voir à San Francisco, du coup, les accélérateurs que je voyais sur Internet, 500 Startups, Techstar, Y Combinator, etc. Donc, j'avais vu plein d'articles dessus, quoique c'était vraiment le début.
Ouais.
Mais en y allant et en revenant, déjà, j'avais ce sentiment que il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire. Après, j'étais incapable vraiment de le spécifier et j'ai été capable de l'exprimer par les expériences, par les rencontres, par le travail avec les entrepreneurs, par tous les collaborateurs aussi, designers, artistes, entrepreneurs, professeurs, etc., avec lesquels on travaille. Donc, j'aurais pas été capable à l'époque de le dire, mais c'était déjà là. C'est évident.
Quand tu l'expliques, ça, cette notion du bleu, de la sirène, de la sublimation, est-ce que les entrepreneurs que tu accueilles au sein de ton incubateur, ils comprennent ça, ils en font leur méthodologie à eux, ou est-ce que tu sens qu'ils sont totalement hermétiques à ce genre de discours?
Je sais pas s'ils...
Hermétique est peut-être fort, mais en tout cas,
oui,
est-ce qu'ils vont... Et du coup, là, pardon, je te pose une deuxième question liée à ça. Est-ce que ça fait de cette culture que tu amènes en plus un incubateur différent sur la place parisienne avec des entrepreneurs différents? Incubateur différent, oui, mais des entrepreneurs différents?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, à mon avis, ce que je raconte là par rapport à la sublimation, je crois que c'est aussi dans l'air du temps. Et sans doute que d'autres endroits qui accompagnent les entrepreneurs pourraient parler pas forcément avec ces mots-là, mais de plus en plus, on n'est plus dans un accompagnement de pur projet, de plus en plus on accompagne les entrepreneurs, de plus en plus la question des soft skills, donc tout ce qui est savoir-être dans l'entrepreneuriat existe un peu partout. Donc ça déjà, ça commence à se généraliser, ou en tout cas, il y a une conscience que le métier d'accompagnateur inclut des choses nouvelles qui vont au-delà du projet.
Okay.
Ensuite, les entrepreneurs de la Blue Factory, je pense que dans leur témoignage, en tout cas, il y a une âme de la Blue Factory, il y a une culture, une façon d'être ensemble qui est très particulière et qui font que des entrepreneurs qui ont réussi et qui sont réussis au sens où voilà, ils ont des projets qui sont grands, qui les emmènent loin, vont revenir à la Blue Factory très vite. Enfin, un moindre texto va les faire revenir à la Blue parce que c'est la Blue, justement, et qu'il y a cet état d'esprit, cette culture. Dans les recrutements de projets qu'on fait...
Tu leur parles de la petite sirène ? Alors, comment tu vois que la petite...
Peut-être pas. Non, mais dans les critères de sélection, ouais. Il y a cette notion d'ouverture, de partage, de don, sur lequel j'insiste beaucoup.
OK.
Et donc, ils savent quand ils rentrent dans la Blue Factory qu'il y a ça. Et puis, il y a l'aspect aussi, finalement... intrication de leur projet dans le monde.
Okay.
C'est-à-dire, moi, à la base d'où je viens notamment de tout ce qui est économie sociale et solidaire et innovation sociale, entrepreneuriat social, économie collaborative. C'est des choses qui m'ont absolument passionnée très vite, en tout cas quand j'ai pu les découvrir autour de 2006. Et donc, j'ai eu une période de ma vie à être assez blanc, noir, bien, mal. L'entrepreneuriat social, c'est bien. L'entrepreneuriat pas social, c'est pas bien, etc. etc. Et puis, en fait, le fait de développer la Blue Factory m'a amené à beaucoup plus ouvrir les perspectives, à sortir de ce carcan-là et à plutôt être effectivement dans un « est-ce que l'entrepreneur que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un qui a une conscience plus intégrale et plus holistique du monde dans lequel il est ? Est-ce qu'il n'est pas juste en train de regarder si son fichier Excel est profitable ou pas ? Et est-ce que c'est quelqu'un justement qui, avec les autres entrepreneurs de la Blue Factory, avec les gens avec qui il va travailler, va comprendre cette notion de flux d'énergie qui est entre nous et de vie, en fait, où le principe, c'est je donne, je recevrai, je reçois, je donnerai.
C'est marrant ce que tu racontes sur l'économie sociale et solidaire et ce shift qu'il y a eu, en fait. J'ai l'impression que moi, c'est 2010-2012 ou peut-être même un peu après. Et pour moi, c'est Blablacar, en fait, qui a vraiment, il s'est passé un truc. C'est-à-dire que Blablacar était vraiment donc ce fameux site de covoiturage, hein, on va le dire comme ça, qui était énormément ancré, effectivement, cette économie sociale et solidaire. Et quand Blablacar a décidé tout d'un coup de rendre les choses payantes et de pouvoir commencer à faire du profit pour vivre et simplement avoir des équipes et se développer, j'ai l'impression qu'il y a eu deux choses. Ceux qui étaient contre ça en se disant « ils ont totalement vendu nos valeurs », et ceux qui se disaient « bah non, en fait, c'est l'évolution normale, ça fait partie du business et c'est l'évolution du truc ». Et j'ai l'impression que c'est passé vraiment un truc à ce moment-là qui était extrêmement fort et assez radical, en fait. Et l'image de l'entrepreneur a changé à ce moment-là. Tu l'as ressenti comme ça, toi aussi, ou au-delà de l'exemple de Blablacar, mais il y a eu ce shift-là de...
Bah, alors, pas forcément avec cet exemple-là. Moi, ce que je vois, notamment, c'est plutôt, justement, avec le boom de la Silicon Valley, t'as eu, à un moment donné, tout le monde créait des applications ou des trucs, mais où vraiment, on arrivait à se dire, mais à quoi ça sert? Enfin, c'était très bizarre.
C'est vrai.
Je pense qu'à un moment donné, avec cette multiplication de créations où il y avait on voyait même plus à quoi ça servait. Et puis aussi, quand les mythes de l'entrepreneuriat sont tombés, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que des projets dont on entendait beaucoup parler n'étaient pas du tout rentables, étaient seulement nourris par des fonds qui investissaient à perte, etc. Enfin, quand un peu ce miroir aux alouettes est tombé, et puis aussi tous les burn-out de start-upers qui parfois ont même vraiment complètement risqué leur vie, ça a fait un peu réfléchir aux gens, à quoi ça sert, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce dont on parle toujours, le fameux why, le pourquoi on fait les choses, a commencé, je pense, à se généraliser et à se distribuer et à sortir du côté est-ce que mon projet est un projet au service de l'intérêt général et à rentrer plus généralement dans le OK, maintenant, quand on fait un projet, pourquoi on le fait.
Ouais.
Et aujourd'hui, à la Blue Factory, par exemple, on a Fly the Nest, qui est une boîte qui accompagne les entreprises dans la création d'une culture commune pour que les équipes se fédèrent autour de cette culture et puissent avoir un master plan d'action large. Et on travaille avec eux. Et le premier travail, c'est sur la raison d'être. Et donc, la raison d'être et les valeurs, tous les collaborateurs de la start-up vont ensemble réfléchir à, pour moi, c'est quoi la raison d'être de ce projet ? pour essayer de trouver une raison d'être commune, même si les raisons d'être particulières débordent, mais il y a une raison d'être commune, et quelles sont les valeurs, moi, que j'ai dans ce projet, et quelles sont les valeurs, du coup, partagées par la boîte. Et c'est ce qui va, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je transmets aux entrepreneurs, c'est ce qui va constituer un peu le mât du projet, et on parle beaucoup de pivoter, mais on pivote autour d'un axe. Mmh. Et cet axe va être la raison d'être et les valeurs. Et puis, bah, après, évidemment, les opportunités de marché, enfin, la réalité du terrain,
complètement.
On n'est pas dans la lune, mais il y a ça que je vois partout.
Ouais, complètement. Et c'est effectivement ce qu'explique Simon Sinek dans son Why, où il dit, si on a défini un objectif commun et si on définit des valeurs communes et un combat commun, alors la réalisation de ce combat et quelles sont les solutions à ce combat, finalement, il peut y en avoir 10 différentes. Et effectivement, tu as raison, même si on pivote, même si on cut un projet et qu'on en recrée un autre, on restera autour de ce why qui va nous permettre de centraliser. Ouais. Est-ce que tu as des... je sais qu'il y a Ticket for Change qui est passé chez vous, si je n'ai pas de bêtises. Mais est-ce qu'il y a... Alors, eux peut-être, ou d'autres boîtes qui sont un peu des... je ne trouve plus le terme, mais ce n'est pas des case studies, c'est des réussites d'entreprises, justement avec ces valeurs-là qui expriment et voilà, dont vous êtes fiers. Est-ce qu'il y avait deux, trois boîtes, exemple un peu
On en a, en fait, justement, quand tu me disais qu'on allait échanger sur l'entrepreneuriat et l'art, j'ai un peu réfléchi par rapport aux boîtes qui sont passées par la Blue Factory et j'ai pensé à trois, en fait. J'ai pensé à Make Sense, Welcome to the Jungle et Kid, qui sont en fait trois startups. Donc, Make Sense, c'est aujourd'hui... grande communauté internationale d'accompagnement des entrepreneurs sociaux et de promotion d'entrepreneuriat social.
Make sense, ça a du sens.
C'est ça. Welcome to the Jungle, c'est donc une boîte qui est dédiée à la transformation des RH pour permettre de créer une nouvelle interface entre l'offre et la demande et de
c'est faire, ça, c'est du recrutement.
C'est du recrutement nouvelle version où on ça. Va postuler pour un univers plutôt que pour une fiche de poste.
Et puis une plateforme où en tout cas on comprend un peu mieux les nouveaux métiers et on les accueille. Quoi.
C'est ça. Et Kid, avec une autre boîte qui a été montée après qui s'appelle AppyKey. Alors, Kid, c'est une application qui est une espèce de Facebook privé pour pouvoir partager les photos d'enfance, d'enfants qui naissent dans la famille sans être bouffé par les dangers de la présence en ligne publique et avec la possibilité de créer des albums photos derrière de familles, de souvenirs. Et puis à côté, c'est une plateforme de e-commerce AppyKey de jeux éducatifs trouvés dans le monde entier qui sont aussi écologiques et pour les enfants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces trois projets-là ont été fondés à chaque fois par un business et un designer.
D'accord.
De base.
C'est marrant, parce que souvent les boîtes, c'est business tech.
Exactement.
Et pas business designer, pardon.
Et donc dans Make Sense, dès le début, il y a eu plusieurs designers qui ont été impliqués. Welcome to the Jungle, pareil. Alors, c'est pas un designer, c'était Bertrand, le cofondateur de Jérémy, qui lui était vidéaste, était dans l'image et la communication, etc. Et pour ce qui est de Kid, Tiffen, donc Aurélia qui est designer de base et puis aussi développeuse. Et donc, c'était la réflexion autour de l'intégration dès la création de cette pensée design, en fait, qui est là au cœur dès le début au niveau de la conception. Et notamment, parmi les professeurs qu'on a à l'ESCP, une copine de promo, Géraldine Atuel, qui est en train de lancer un livre qui sera en janvier, je crois, sur le design d'expérience.
Okay.
Et qui, dans la réflexion, allie justement la création avec l'art et comment est-ce que, en s'inspirant de la mise en scène, du théâtre, de la musique, des arts visuels, etc., on peut mieux exprimer l'idée qui est en train de germer et mieux l'apporter en fait aux clients, aux bénéficiaires en fonction de ce que tu fais. Tu sais, on parle souvent, on parle évidemment du UX, de user experience. Et ben le design d'expérience, ça prend vraiment l'ensemble du projet pour un peu écouter ce qui est en train de naître. Et comme ce qui est en train de naître, on ne sait pas encore ce que c'est et que les mots ou les chiffres seuls ne sont pas suffisants, si on peut utiliser, encore une fois, l'image, le dessin, l'expression corporelle, etc., ça peut peut-être aider à lui donner une autre dimension.
J'ai envie qu'on regarde une phrase que j'ai trouvée sur les réseaux Internet, comme on dit. Sylvain Bureau, tu peux nous rappeler qui c'est ?
Sylvain Bureau, c'est le directeur de la chaire entrepreneuriat de l'ESCP avec qui je travaille.
Et il dit « Tout entrepreneur transforme le réel ». Quand j'ai préparé l'émission tout à l'heure, quand je suis tombé sur cette phrase, je me suis dit « Mais en fait, c'est exactement ça. » C'est-à-dire que c'est une partie de la réponse de quel lien entre les entrepreneurs et les artistes. Et tu t'en as très bien parlé du lien. Je trouvais ça hyper amusant que tu dises que les trois boîtes qui sont le plus sorties, en tout cas les plus intéressantes.
Il y en a plein d'autres, mais je t'ai pioché celle-là. Quoi.
Que ce soit un mix entre justement des business développeurs et des designers. C'est peut-être de se dire que l'entrepreneur comme l'artiste ont ce point commun de vouloir dessiner leur propre réel ou leur propre vision du réel dans une boîte ou dans une œuvre artistique. toi, du coup, qui a un peu ces deux parcours-là, puisqu'à la fois, toi, tu chantes, tu fais du théâtre, tu... Voilà, on va en reparler un peu après. Mm-hmm. Est-ce que tu es OK avec ça? Et est-ce que ça te semble... ou est-ce que les entrepreneurs avec qui tu discutes, tu ressens ça, en fait? Cette notion de quelle confrontation au réel et de pas se confronter au réel brutalement, mais de vouloir le designer ou de vouloir le créer et en faire une œuvre artistique.
Donc déjà, par rapport à la phrase que tu as mentionnée, c'est une phrase qui est issue, je crois, d'un article notamment sur Improbable. Donc Sylvain Bureau, qui est le directeur de la chaire, c'est aussi un enseignant-chercheur. Dans la chaire entrepreneuriat, notamment, on a développé ce séminaire qui s'appelle Improbable, qui est issu de recherches et puis ensuite qui est devenu une formation.
Ça me fait rire parce que quand on a préparé l'émission, il faut quand même qu'on se le dise. J'ai dit à Maëva, mais tu m'as parlé d'un truc à un moment donné. faut qu'on parle d'un truc. S'il y a pas des expos, des machins, et là tu sors Improbable. Et là j'ai vraiment cru Improbable, genre non, ça n'arrivera jamais. Et non, c'est le nom du truc. Du coup, je m'en souviens hyper bien maintenant. donc l'événement s'appelle Improbable.
Improbable, oui, c'est un séminaire qui dure 3 jours, qui a été développé donc en collaboration avec un artiste notamment qui s'appelle Pierre Tectin.
Ok.
C'est un séminaire qu'on fait désormais pour les étudiants, mais aussi pour des boîtes. Donc on l'a fait pour Orange, La Redoute, la SACEM et d'autres. Et c'est un séminaire qui dure 3 jours, dans lequel les participants vont être amenés à créer une œuvre d'art et à faire un vernissage à la fin des 3 jours. Donc c'est vrai, il y a vraiment des gens qui viennent voir les œuvres d'art.
C'est la définition du hackathon.
C'est ça, c'est en gros on parle d'art thinking. Okay. C'est comme ça qu'on le détermine. Et
c'est un nom générique ou c'est vous qui avez mis ce nom-là?
C'est nous qui l'avons mis. Okay. En fait, c'est pour aller dans le sens du design thinking, aller jusqu'à l'art thinking et d'essayer d'expliquer. D'accord. L'idée, c'est effectivement, à travers les enseignements de la pratique artistique, voir comment ça peut aider à imaginer un tout autre monde. Parce que bon, ça se dit beaucoup aujourd'hui, hein, on est dans un monde qui accélère, qui est très incertain, c'est difficile de dire à quoi il va ressembler. Et ce qui est intéressant en s'inspirant des artistes, c'est que l'artiste, lui, va avoir cette capacité à créer un nouveau langage pour parler de quelque chose qui n'existe pas et que lui voit, mais qui n'a pas de mots. Et donc, en utilisant un peu ce processus, ce parcours, cette manière de créer qu'a l'artiste, ça peut aider, nous en l'occurrence des entrepreneurs et des intrapreneurs, à remettre en question tout ce qu'ils sont en train de faire avec du nouveau. Et puis par cette pratique justement qui passe par le corps, qui passe par les sens artistiques. Et donc c'est ça Improbable, ce séminaire-là.
Peut-être on peut voir une œuvre qui a été faite.
On peut voir une œuvre qui a été faite.
Par exemple, tu peux nous l'expliquer?
Ouais, c'était... c'était une œuvre... C'est ça, c'était dans le cadre de la... On a fait un vernissage à la Galerie Papillon.
Donc j'étais là,
ce
vernissage.
C'est ça, on a eu la chance d'avoir une vraie galerie d'art qui a reconnu l'intérêt du travail de ce séminaire Improbable et qui du coup a permis d'accueillir une dizaine d'œuvres qui étaient issues de différents vernissages qu'on avait faits. Et ça, c'était du coup sur la promotion de l'année dernière, de septembre dernier, sur la promotion de l'option entrepreneuriat de Paris. Les étudiants qui avaient fait cette œuvre d'art, donc il y a marqué « You can have any energy you want as long as it's your... as it's...
yours.
Yours, je crois. Ours. Non, c'est ours.
Ah, ok.
Et en fait, là, c'était, dans mon souvenir, c'était toute une réflexion autour de l'intelligence collective et la collaboration. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de nouveaux types de management, entreprises libérées, etc. Et c'était un peu la réflexion autour de presque l'exploitation qu'il y a dans cette idée de vouloir rendre les gens de plus en plus créatifs, de plus en plus autonomes, avec un maximum d'idées et libres et machin.
Et c'était comment tu transmets l'énergie, quoi? À travers... Non, moi, je l'ai lu comme ça, en fait.
Tu l'as lu comment?
Je l'ai lu parce qu'en fait, donc il y a une prise électrique par terre où il est branché sur l'énergie. Ouais. Et ensuite, c'est des multiprises qui se branchent les unes aux autres.
Ouais.
Et je trouvais ça cool comme image de se dire, en fait, il suffit d'une source d'énergie pour pouvoir transmettre l'énergie à peu près partout. Et en fait, il suffit juste qu'on soit relais de cette énergie et qu'on n'est pas créateur. On n'est pas obligé de créer de l'énergie. On peut prendre l'énergie, recevoir l'énergie des autres et du coup la transformer et la redonner. Et j'aime bien l'idée de pouvoir dire, tu sais, ça ressemble un peu à toutes ces notions de sharing, de comment est-ce que tu crées jamais rien, tu transformes tout, tu vois. Et après, ça me faisait aussi penser à, c'était Jeremy Rifkin qui parlait de la révolution verte, où il disait demain on sera tous capables de produire de l'énergie, il y aura plus de centrales nucléaires parce qu'on va tous produire de l'énergie, on va pouvoir la stocker, la partager avec tout le monde. Tu vas pouvoir toi du coup utiliser ton énergie pour toi et puis peut-être du coup la partager aux voisins, un peu comme ce qu'on fait avec internet en fait. On est tous à la fois un peu serveur, un peu transmetteur, un peu récepteur, un peu...
Alors, je t'avoue, en vrai, il faudrait parler avec les étudiants artistes qui ont fait cette œuvre pour être sûr de ce qu'ils avaient dit. Mais moi, en tout cas, ce à quoi ça me fait penser, vu qu'à chaque fois, ces œuvres ont vocation aussi à être un peu controversées et à pas donner de réponse, j'aurais tendance à dire, mais ça se trouve, c'est pas vrai du tout.
C'est ça, ce mec ne fera pas du tout. En fait, juste brancher trois prises,
mais c'est cool. Le principe de l'art aussi, c'est que ça crée de la discussion et du débat, donc tant mieux. Mais j'aurais tendance à dire que ça peut aussi... parler du sujet aujourd'hui, encore une fois, dans cette notion d'entreprise libérée dont on parle, il y a aussi un danger de burn-out des collaborateurs qui sont, avec de la même façon qu'il y a aujourd'hui presque une injonction à monter sa boîte, il peut y avoir une injonction à être créatif, émancipé, innovant, libre, autonome, etc. etc. et qu'à un moment donné, la machine se nourrit d'une espèce de d'illusion d'auto-émancipation des gens qui en fait sont un nouvel esclavage.
Ça c'est un vrai problème et je trouve que là répond à... C'est un peu la deuxième phase. Donc là la première phase c'était vraiment la notion du réel que je trouve intéressant entre les entrepreneurs et les artistes. La deuxième chose c'est la notion de réalisation personnelle en fait. Où on a eu ce truc de se dire que les entrepreneurs... la notion d'entreprendre était une réalisation en tant que telle et qui était même juste boutiste. C'est-à-dire qu'on allait vraiment dans une réalisation personnelle qui allait très loin parce qu'on se coupait quasiment de vivre pour se dire c'était... L'entreprise sortait de notre ventre, donc on avait un côté réalisation personnelle qu'on devait mener. Et je me rends compte, en fait, depuis quelques années, qu'il y a vraiment, pareil, une espèce de shift où tu as des mecs comme Gary Vaynerchuk ou autres qui sont dans le « tu dois aller jusqu'au bout, machin, tu dois prendre des avions dans tous les sens ». Et leur terme, c'est « hustle », c'est vraiment genre aller au bout. Et tu en as d'autres qui se disent « bah non, en fait, on va se calmer deux minutes ». Et beaucoup se tournent vers l'art, en fait, se remettent à faire de la musique. Toi, tu fais de la musique, tu fais du théâtre, tu fais… et c'est le moment de nous parler de ce que tu fais, Maëva.
C'est ça.
Bon, donc déjà,
est-ce que je peux parler juste d'un dernier truc
bien
avant
sûr.
De parler de ça?
Ouais.
Je voulais juste mentionner.
Dis-le si mes questions sont...
non, c'est top, mais c'est juste pour pas oublier parce Vas-y. Que je voulais dire ça. Par rapport à la phrase de l'entrepreneur transforme le réel, il y a juste un truc à mon avis qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, tout être vivant transforme le réel.
Ok, on a le droit de la quoter, la mettre sur Twitter, c'est là.
Tu peux. Non, mais notamment, ça me fait penser à un livre qui est sorti récemment sur les arbres. Oh. Je sais pas s'il y a un gros best-seller sur les arbres qui est sorti. Et j'avais vu une conférence d'un écologue qui expliquait que dans une forêt, à partir du moment où une plante pousse, toute la forêt est impactée.
Ok.
Et tout ça pour dire que, en gros, c'est juste que l'espèce de l'entrepreneur change le monde, l'entrepreneur transforme le réel, etc. C'est vrai et c'est hyper important que l'entrepreneur ait conscience de l'interdépendance de la vie, en fait, et donc que quand il crée, il se passe plein de choses autour, et de surtout tout ce qui autour lui permet de créer, dans les deux sens. Mais je pense que c'est important aussi de se rendre compte que tout le monde, à partir du moment où tu es vivant, tu es la vie, quoi.
Et c'est vrai que c'est toujours amusant, parce qu'entre la culture américaine et la culture française, il y a des phrases clés ou des trucs qui ne fonctionnent pas en France ou en Europe, tu vois, quand tu vois Zappos, qui est un Zalando américain qui vend des chaussures et qui dit « nous, on change le monde », toi, t'es là, genre, mec, tu vends des godasses, surtout, faut quand même pas... Mais t'as raison sur le fait que, oui, t'as quand même cette corrélation, et t'as « je change le monde parce que je trouve des solutions à des gens, parce que j'accompagne d'autres acteurs, parce qu'il y a des collaborateurs, je fais en sorte qu'ils vivent bien dans cette entreprise et qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils font ». Mais en France, c'est un peu compliqué, ce genre de phrase. C'est toujours un peu avec ça. Mais t'as raison. Et je fais référence aussi au film de Luc Jacquet qui s'appelle... Je ne sais plus.
Avec les pingouins.
Non, justement, il y avait ça, donc la marge de l'emploi.
C'est ce que t'avais ou parce que je me souviens que t'avais travaillé dessus.
Ouais, mais surtout, il a fait un film sur la forêt. Il me tuerait si j'entendais ça.
Qui s'appelle Forêt.
Non, qui s'appelle pas Forêt, qui s'appelle... Non, je ne sais plus, aller voir. Luc Jacquet, il a fait un film sur la forêt qui est absolument génial, où justement, on comprend ça, en fait. L'écosystème et l'interdépendance.
Magnifique.
Voilà. Parlons du sujet numéro 2.
Oui.
Ça te va sur... c'était quoi ce sujet numéro 2 ?
Sur la pratique artistique, non ?
Oui, c'était ça. Qu'est-ce que tu fais du coup, toi ? Comment est-ce que... Non, ma première question, c'était effectivement cette pratique artistique sur trouver une autre forme de réel dans sa vie pour éviter d'avoir qu'une seule forme de réel et s'ennuyer là-dedans et finir en burn-out, et d'avoir d'autres formes d'expression aussi. Est-ce que toi, tu as toujours eu cette part de toi artiste ou créative et tu l'as toujours exprimée ? Ou est-ce que tu as eu un moment où tu t'es coupé de ça en disant... parce qu'on a toujours, on est un peu des enfants de cette culture de il n'y aura pas de travail pour toi, alors faut que tu te démerdes. Donc en vrai, tu fais ok, je vais arrêter de faire le con, je vais peut-être trouver un boulot, j'aimerais aller en école de commerce. Et tout d'un coup, tu fais ok, bon, j'ai mieux compris, je commence à m'en sortir ma vie, donc a priori, j'ai 2-3 piliers un peu forts, je peux commencer à m'amuser. C'était quoi ton parcours ? T'as jamais lâché ou tu t'y as mis ?
Non, moi j'ai été un peu. J'ai picoré à droite à gauche, j'ai fait un peu. un peu tous les sports. J'ai jamais eu vraiment un truc sur lequel je me suis attachée pendant longtemps.
T'as pas lâché l'expression à côté. Enfin, t'as toujours gardé un temps, quel qu'il soit, pour autre chose. Non.
Oui, non. Je dirais que.
Non. Faut pas dire ça.
Aujourd'hui, je fais du théâtre et j'ai eu un groupe de musique pendant un an et demi qui peut-être partira, ouais. Kaom. Et ça, ces deux choses-là, c'est clair que j'ai toujours chanté le dimanche à ma petite sœur en sautant sur le lit toutes les chansons de Walt Disney. Donc, j'ai toujours aimé chanter.
Ah oui, et grande sœur ou petite sœur ?
Petite sœur.
Ah oui, sympa.
J'étais moins la grande sœur de la petite sœur.
Enfin, mais en fait, globalement, tu l'embêtais quand même le matin. Quoi.
Je sais pas. Souvent, mais pour moi, c'était très généreux. Ouais. Non, mais bon, j'ai toujours aimé chanter. Pourtant, j'étais pas chanteuse et voilà. Et le théâtre, c'est peut-être une façon d'être qui a toujours été chez moi et qui a souvent débordé. Je me souviens dans mes études en prépa justement littéraire, à un moment donné, je me souviens de la dernière dissertation qu'on devait faire avant les concours, avec des copines, on n'en pouvait plus d'écrire des dissertations pendant 5 heures, et on est allé voir le prof qui était très sympa, et on lui avait dit, écoute, si tu veux, on te le fait sous forme de pièce de théâtre.
Ok.
Et donc on avait fait toute la disserte rédigée sous forme de pièce de théâtre, et présentée à la classe, avec, à chaque fois qu'il y avait des citations, c'était des potes dans la classe qui faisaient les citations avec l'accent russe, ou je ne sais quoi, etc. Donc c'était assez génial, donc ça m'a toujours touchée. Mais c'est vrai que concrètement, je pense un peu comme certaines personnes, à force d'études, c'était on met tout ça de côté, mm-hmm. on travaille, jusqu'au moment où tu es là, tu fais genre, non, mais en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, oui, je ne sais pas, je dirais, il y a 4 ans, à un moment donné, je me suis dit, non mais... Si c'est pas maintenant, c'est quand ce fameux instant présent, seul le présent existe. et donc j'ai pris des cours de chant, parce que c'était ce qui me bloquait pour oser chanter. Je voulais pas casser les oreilles de personne. Je suis tombée par magie, si la magie existe, dans un cours de comédie musicale improvisée.
Ok. Ah oui.
Donc costaud. Sachant que j'avais fait à l'ESCP la comédie musicale et que j'avais écrit aussi, co-écrit la comédie musicale pendant mes études, donc pareil, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Et puis après, là aujourd'hui, je fais un super cours de théâtre qui est une troupe court, un peu un mélange. En fait, ce sont des gens qui sont ensemble avec le même metteur en scène depuis 7 ans.
Okay.
Donc du coup, c'est un travail de fond qui est un travail de théâtre classique, mais très moderne et très profond dans l'être. Un vrai travail sur l'être et qui pour moi est plein d'enseignements sur tout ce que je fais au jour le jour et sur l'entrepreneuriat.
Qu'est-ce que ça t'apprend justement ? En quoi est-ce que ces activités-là font que ton travail, tu le considères autrement et que tu arrives à apporter une énergie différente à tes entrepreneurs ?
Alors je pense que c'est très lié déjà au metteur en scène. Donc Hervé Claudilin, sa façon d'enseigner le théâtre est très particulière. Je ne sais pas si ça se généralise dans tous les cours de théâtre. En tout cas, lui, il nous accompagne vraiment dans le fait de ressentir. Ressentir le plus profondément, c'est-à-dire qu'on fait parfois des improvisations qui vont durer 25 minutes.
Ok.
Où on va juste avoir une note de jeu au début. Donc, je sais pas, tu es la maman jalouse de ta fille. Et puis, pendant 25 minutes, tu vas improviser et tu vas être dans un temps réel d'échange avec la personne et tu vas vivre les choses. Et du coup, ça... Alors, l'analogie que j'y vois, c'est beaucoup dans l'interaction avec les gens et par rapport au projet. C'est-à-dire que quand tu crées un projet, tu vas être beaucoup dans... Enfin, potentiellement, quand tu crées pour la première fois, tu vas être beaucoup dans la lutte et dans le « c'est comme ça que je veux que ce soit, il faut que ce soit comme ça ». Et du coup, tu vas pas être dans l'accueil et dans l'écoute parce que t'es déjà tellement tendu à l'intérieur, c'est tellement dur. Et donc, le travail théâtral, ça t'apprend l'abandon. Et ça t'apprend l'accueil de l'autre, en fait. Parce que, bah, notamment, si t'as ta note de jeu, comme je disais, tu es la maman jalouse de ta fille, bon, bah, tu pars dans le « je suis la maman jalouse de ma fille ». Puis là, tout à coup, l'autre en face de toi va avoir une réaction qui est juste pas du tout prévue. Et puis, bah, si tu restes dans ton personnage, bah, c'est mort, ça va pas du tout se jouer. Bien sûr. Qu'en plus, c'est improvisé, personne ne connaît le texte. Et donc, tu vas avoir ce vrai dialogue qui va se mettre en place. Et pour moi, ça, c'est beaucoup d'enseignements pour, d'une part, les relations entre associés, et les relations entre collaborateurs, etc., qui sont très tendues et non écrites, notamment au début d'un projet, en fait. T'as pas des postes, t'as pas des machins.
C'est sûr.
Et puis aussi, je pense, la relation du projet à la réalité, qui va beaucoup, beaucoup changer, et où tu vas être dans cette dichotomie entre voilà ce que je m'imagine être et voilà ce que je vois, et voilà ce que la réalité m'envoie. Mmh. Et bon, après, je pense que c'est assez propre à la création de projet. encore une fois, parce qu'on est sur de l'inconnu qui se forme, quoi.
Ouais, et puis ce qui est intéressant sur le théâtre d'impro, moi ce que j'adore dans le théâtre d'impro, j'en ai fait un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ce que je trouvais fantastique, c'est les règles du théâtre d'impro. Alors je les connais pas toutes, mais il y en a une ou deux que j'aime beaucoup, qui est, bah, tu prends une situation, tu peux pas dire non.
Ouais.
Impossibilité de dire non à une situation. Et ça, ça a vraiment changé ma vie, en fait. Ouais. De vraiment dire,
tu vois, genre. C'est oui et.
Ouais, et puis surtout, c'est, il arrive quelque chose, joue avec. Et je trouve que ça, c'est une leçon de vie qui est incroyable. Et tu vois, par exemple, je supporte pas les gens qui se plaignent parce qu'il pleut. Tu vois, c'est un truc que je, intrinsèquement, je peux vraiment m'énerver. C'est-à-dire que véritablement, parce que t'es là en train de dire, mais quelle est cette espèce d'énergie que tu dépenses, alors que accepte-le, fais avec, trouve des solutions. Donc ça, ça m'insupporte. Et la deuxième chose, c'est fais avec les autres et dès que tu prends la parole, apporte une proposition. C'est-à-dire, t'es impossible de finir une phrase sans apporter quelque chose à l'autre et lui envoyer la balle. Et ça, je trouve que c'est deux règles. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais ça, c'était les deux seules règles que j'ai retenues. Enfin, que je refasse du théâtre d'impro, je pense. Parce que j'avais trouvé ça très cool. Mais je trouve, mais c'est une école de la vie pour moi, l'impro. Vraiment. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que t'as aussi ce truc de pouvoir jouer un rôle, tu vois, et revivre une situation que t'as vécue sous un autre prisme. Et là, tu joues, en fait. C'est un peu comme au cinéma quand ou un rêve, ou tu sais, où tu vis le truc, t'es un peu stressé, tu te dis merde, comment je vais y arriver. Et puis d'un coup, le truc s'arrête et tu fais, ah ok, c'était juste un jeu, tout va bien. Du coup, tu te remets dans ton état et ça t'apprend des choses sur comment réagir aux autres et t'as tout à fait raison.
Ça, c'est hyper vrai en termes de travail sur l'empathie et enfin, quand tu joues dans une pièce, voilà, tu vas devoir jouer un rôle qui t'est probablement jamais arrivé et tu vas devoir plonger en toi pour te dire, ok, si j'avais vécu ça, si je vivais ça, à quoi ça fait référence en moi, etc., etc. Et donc, ça t'apprend à être pluriel. Et donc après, quand tu collabores avec des gens qui fonctionnent pas du tout comme toi, potentiellement, au moins, t'as un peu ouvert ta capacité à être les différentes facettes de l'être, quoi.
Puis le problème après, c'est que t'es plusieurs dans ta tête, quoi. Ça, c'est...
Ça, nous sommes tous plusieurs dans notre tête, il faut juste se l'avouer.
C'est quand même compliqué. ce qui m'intéresse, c'est quand tu confrontes ça. Donc ça, c'est ton parcours un peu perso. Et de la même manière, je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Est-ce que les entrepreneurs que tu as dans la Blue Factory ou que tu rencontres, est-ce que tu les pousses justement à provoquer des rencontres artistiques ou à via les événements que tu fais évidemment, mais est-ce que hors de ça, tu vois, comme un espèce de mantra, souvent, toi, les start-upers, c'est la morning routine de « vas-y, lève-toi à 5 heures et fais du yoga okay, !» Pourquoi pas, ok, c'est pas la mienne, mais... Et est-ce que toi, c'est pas une morning routine, mais une espèce de routine de vie qui est de dire t'es obligé de créer quoi qu'il arrive, de faire quelque chose qui te permet de je trouve pas le mot, de t'étendre, de
oui, de t'exprimer à travers
de
ça.
T'exprimer.
Bon, clairement, ça dépend beaucoup des entrepreneurs et c'est un peu chacun à son terrain d'expression. Je pense que le fait déjà moi de vivre comme ça, bah, naturellement, c'est une façon de voir quelqu'un vivre.
Attends, faut quand même dire un truc, c'est que on a dit tout à l'heure qu'on s'était rencontrés donc à la Média l'Obsession, puis on s'était revus et compagnie.
Ouais.
Il y a quand même un truc absolument fantastique chez toi et quoi? Tu l'as pas aujourd'hui, du coup, je suis un peu déçu.
Ma fleur.
Ouais.
Mais elle est là.
Faut quand même savoir que ma mère, globalement, dès qu'elle se promenait, dès qu'on se croisait, t'avais toujours une fleur dans tes cheveux, une fleur sur tes vêtements ou quoi. Et à chaque fois,
je l'ai sur mon manteau.
Ah, c'est vrai. Ah, c'est pour ça. Et je me disais toujours, mais en fait, pour cette fille, la vie est un théâtre, globalement. c'était pas péjoratif, c'était plutôt très, très bienveillant de se dire, mais quel bonheur d'avoir une personne qui joue de la vie. Enfin, elle est dans la vie, mais en fait, c'est drôle et on s'en fout et tout va bien, quoi. Et ça, je trouvais que c'était fort. Voilà, je voulais te le dire.
C'est gentil. Écoute, non, mais c'est vrai que ça compte. Et puis, après, en fait, il y a différents dispositifs. Là, par exemple, hier, c'était assez génial. On a donc une formation d'entrepreneuriat avec des étudiants. On leur propose 3 heures par semaine de faire ce qu'ils veulent dans le cours. Et il y avait une jeune femme qui a invité son papa, qui est directeur d'un chœur.
Okay.
Donc, Bruno Rastet, qui a une boîte qui s'appelle Isop, et il a des chœurs. Donc, il y avait 16 chanteurs qui sont venus. Et donc, les entrepreneurs pouvaient y participer s'ils le souhaitaient. Et pendant 3 heures, on avait donc le chœur qui chantait et qui nous expliquait comment est-ce que la direction d'un chœur pouvait avoir des parallèles avec le management. Donc, en tout cas, il se passe des choses dans l'école où les entrepreneurs peuvent participer. Et puis, notamment dans les échanges beaucoup que j'ai avec eux, c'est vrai que naturellement, notamment sur la première année de création, et quand c'est la première boîte, souvent, les entrepreneurs se brûlent. Il y a un moment donné où
t'en peux plus, quoi.
Ils en peuvent plus et c'est très difficile de trouver l'équilibre, en fait. En fait, tant que t'as pas brûlé, en même temps, tu crois que tu peux tenir. Et donc, c'est sûr que dans les échanges que j'ai avec eux, j'insiste beaucoup sur l'aspect un marathon, deux, notamment j'en parlais hier avec l'un d'eux, la métaphore, en fait, de l'automne. Et de la recharge d'énergie, en fait, quand t'as les feuilles qui tombent et que l'hiver arrive, derrière, c'est parce que le printemps va venir. Et donc, ce besoin de se reposer, se poser, s'arrêter, etc., il est dans les saisonnalités, il est dans la vie, et c'est hyper important, et c'est un moment où il se passe des choses dans l'invisible.
Et... Non, mais ça, c'est compliqué sur une culture française très « faut que t'ailles bosser », de pouvoir dire... tu vois, genre, il faut que tu te poses, il faut que tu prennes le temps pour toi. C'est audible, ça, vraiment? Enfin, je te pose une question un peu...
Est-ce que c'est audible par les entrepreneurs?
Ouais. Est-ce qu'ils le comprennent?
Bah,
ou est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils se crament pour ensuite qu'ils se disent « Ok, il y a peut-être... »
Je pense que comme dans tout, il faut te péter la gueule pour pouvoir apprendre à marcher. Donc, bon, je pense qu'il faut bien se cramer à un moment donné. Mine de rien, t'as quand même de plus en plus d'entrepreneurs qui, en plus, sont des success stories, qui, du coup, quand ça vient d'eux... Et ben forcément, ça a plus d'écho.
Question piège, mais ouais. En vrai, c'est une vraie question. Tu penses à quelqu'un ou pas
de... Oui, je pense à Alexis Fogel de Dashlane, qui lui fait un quart d'heure de méditation par jour et qui est hyper. Enfin, en tout cas, c'est sa façon de pratiquer les choses et qui insiste beaucoup sur effectivement cet équilibre. Séverin Marcombe aussi, qui a monté Lima. Bon, je te parle des entrepreneurs de La Blue, hein, mais qui lui aussi.
Lima, ça vient de La Blue aussi ?
Ouais.
Trop bien. En fait, vous avez tous les bons.
Bah ouais, mais nous on les avait au tout début.
Ok. Et donc puis, Lima, pour la faire courte, pardon, ouais, c'est une petite boîte que vous achetez, où en fait c'est une Dropbox mais physique, c'est-à-dire que vous pouvez brancher d'un côté votre disque dur, de l'autre vous le branchez à un port Ethernet, et n'importe où dans le monde vous avez accès à votre disque dur. Et donc ça permet à la fois, bah ça coûte un peu moins cher de Dropbox parce que Dropbox c'est tous les mois, là au moins vous achetez une fois le matériel et c'est terminé. Et la deuxième chose, c'est surtout pour la notion de données. De savoir véritablement est-ce que où partent vos données, bah là au moins elles sont chez vous et il n'y a pas de problème de données. Pour tous les métiers où il y a une forte confidentialité, c'est plutôt une bonne chose.
Grave.
Et ça vient de chez vous. C'est beau. Et ils ont fait une campagne de crowdfunding qui était absolument incroyable. Je crois que c'était une des premières en France à
ils ont explosé le Kickstarter, ouais. C'est clair. Et voilà, la dernière chose, c'est qu'on était à San Francisco avec les entrepreneurs de l'Option Entrepreneuriat et c'était marrant parce que on a retrouvé un ancien de l'Option Entrepreneuriat qui était sorti, je sais plus, il y a 3 ou 4 ans et qui est maintenant là-bas et qui monte sa boîte et qui nous disait que la culture à San Francisco, justement par rapport à ça, était assez, il y avait cette notion de on bosse comme des oufs, mais si les vagues sont hautes, on va surfer.
C'est très américain.
Bon,
très
après, c'est très américain, très San Franciscain et, et voilà, après, le risque dans ce genre de propos, c'est de passer un peu pour des bobos bien lotis qui montent une start-up. Mais bon, en tout cas, l'équilibre de la personne, elle est absolument fondamentale. Et oui, non, moi j'aimais bien j'aimais bien cette analogie avec l'automne. Je trouvais ça
ouais,
assez juste. Et puis je me l'applique à moi-même. Hein, parce que...
Et d'ailleurs, c'est comme les artistes qui ont besoin à un moment donné de s'arrêter de produire et juste de se nourrir de plein de trucs. Et,
ouais. Ça reboucle avec l'histoire de l'inconscient qu'on disait au début, parce que par définition, l'inconscient, on n'y a pas accès. Et on y a accès quand on dort, on y a accès quand on s'énerve pas, quoi. Donc il faut bien laisser ça émerger pour pouvoir trouver l'info.
Du coup, est-ce que pour toi, un entrepreneur est un artiste ou pas? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à là? Parce que depuis tout à l'heure, on se dit un entrepreneur a besoin d'une expression peut-être artistique, peut-être elle en a besoin. Est-ce que pour toi, un entrepreneur, du coup, vu qu'il crée une forme de réel, on peut dire que c'est un artiste ou pas?
Je pense pas.
Ouais.
Je pense qu'un artiste, c'est un artiste, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Est-ce qu'il y a des artistes entrepreneurs ou des entrepreneurs artistes? Sans doute. Mais je pense que mine de rien, on ne peut pas se permettre de mélanger ça. L'entrepreneur est quand même il y a quand même une logique business dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est pas la même chose. L'entrepreneur, il va, enfin, comment dire, l'artiste, il va essayer d'exprimer dans une singularité la plus élevée, ce qu'est la vie, quoi. C'est pas ce que fait l'entrepreneur.
Eh ben, je sais pas.
J'ai envie de ne pas être d'accord.
Ouais, exactement.
Okay.
Je suis totalement d'accord avec toi, non, sur cette partie-là. Mais je trouve ça intéressant que, en fait, c'est deux expressions différentes, en fait.
Ouais.
Mais ce qui rassemble les deux, pour moi, c'est leur, on parlait de la vision du monde. Et Oussama Amar dit ça aussi, ce côté, lui dit, moi je me bats pas pour un incubateur, pour The Family, je me bats pour, un peu comme se fait Elon Musk, ce côté où tu décides que ta vision du monde sera celle qui sera exécutée et qui va diriger le monde, mais pas diriger les gens, mais qui va être appliquée en fait. Et ta vision du monde et ta manière de t'exprimer va être celle qui va pouvoir orienter d'une certaine manière comment on vivra demain en fait. Pour la faire hyper large. Et
ouais,
je dis, parce que il y a plein de startups, tu vois, les modèles économiques. Et en fait, le startup, je trouve, il y en a plein. Là, en France, c'est pas trop le cas, mais ça peut arriver. Où je trouve qu'en France, enfin aux États-Unis, parfois, et ça arrive de moins en moins, mais il y en avait quand même beaucoup au début, il n'y avait pas vraiment de modèle économique, quoi. Tu vois, et par exemple, les médias aux États-Unis fonctionnent mieux, où t'es mieux reçu quand tu dis je veux monter un média, parce qu'ils comprennent la logique derrière d'avoir des communautés et compagnie, même si t'es pas rentable tout de suite, en fait. Tu vois, et les entrepreneurs sont plus à appliquer une vision et voir ensuite comment est-ce que tu peux la rentabiliser. J'ai l'impression que les artistes, bon, t'as raison, il y a toujours cette notion d'argent derrière, mais je trouve qu'elle est un peu éloignée, c'est pas une entreprise, tu vois,
en fait,
classique.
Déjà, il y a plusieurs, enfin, encore une fois, pour moi, si on dit qu'on a plusieurs facettes en nous, je pense qu'une même personne peut avoir la facette entrepreneur et la facette artiste.
Oui,
donc c'est pour ça que je dis que c'est pas la même chose, ce qui n'empêche pas qu'une même personne ait les deux. Et après, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que l'artiste, il a pas cette notion de conquête. Il est plus dans la proposition. Il propose une vision du monde, mais a priori, l'artiste ne veut pas que tout le monde fonctionne de la façon dont il propose la chose. Il témoigne, en fait, l'artiste, il témoigne de son sensible à lui. Et il va pas.
Ouais, mais si, regarde quand tu regardes Guernica, par exemple. À un moment donné, c'est une manière de pouvoir provoquer les gens pour se dire, regardez ce qui est en train de se passer.
Oui,
et,
mais il propose. Enfin, tu vois.
Je vois, mais.
Mais en tout cas. Puisque on trouve des parallèles et entre l'artiste et l'entrepreneur, ce serait effectivement intéressant de voir à quels endroits ils se séparent, quoi.
Ouais.
Et se complètent.
Moi, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est assez complémentaire.
Ah.
Et je pense d'ailleurs, enfin, c'est pas je pense, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font une forme d'art d'à côté. Tu vois, ils sont musiciens,
Bien sûr.
Il y en a plein.
Oui, mais c'est pour ça.
Ouais.
Ils ont les deux.
Grosse thèse. Ils sont plusieurs aussi.
Ils sont plusieurs. Oui, je suis d'accord.
Et toi, à part la musique et le théâtre, est-ce qu'il y a des endroits, comme tu disais, où tu trouves cette forme de créativité à la marge entre l'entrepreneuriat et l'art, en fait, sans être totalement entrepreneuriat, totalement dans l'art? Est-ce qu'il y a des choses un peu mixtes dans ta vie où tu te dis, tiens, je sais pas trop où j'en suis là. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat?
Ma vie.
La vie est entre les deux,
comme ça. De manière générale, les deux sont un peu liés. Et c'est pour,
en fait, je t'emmène par une autre direction pour que tu rejoignes ma thèse.
C'est vrai. Non, mais quand on a les deux sensibilités, c'est lié. Après, je pense que je mets ma sensibilité artistique dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, plus que j'ai quand même un biais de ce côté-là, mais c'est une sensibilité.
Et pour ceux qui nous écoutent là, et qui nous regardent en plus, ils font deux choses à la fois, et ça c'est beau. c'est quoi le conseil que tu leur donnerais si, parce que là je vois pas mal d'entrepreneurs qui passent depuis tout à l'heure, et je me dis, est-ce que si eux sont dans cette réflexion de se dire comment est-ce que je peux prendre du temps pour créer. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnes à tes startups quand tu sens qu'un entrepreneur a ce besoin-là profondément? Parce que c'est compliqué de dire « Ok, je prends du temps pour… »
Le truc, c'est que prendre du temps, effectivement, le temps, on se rend assez vite compte qu'il est extensible, en fait. Et il est un peu… C'est-à-dire que moi, le jour où je me suis dit « Bon, je vais prendre des cours de chant et je vais prendre des cours de théâtre et tant pis si j'ai pas le temps », je me suis rendu compte que j'avais le temps, en fait. Le temps, il est vivant, il est organique, il bouge. Et donc, quand tu prends le temps d'eux, t'as quand même le temps pour le reste. Je pense que j'ai pas d'enfant encore, mais je pense que quand t'as des enfants, c'est un peu pareil. Donc déjà, je pense qu'il faut pas s'inquiéter de est-ce que j'ai le temps ou pas, ou en tout cas, comme dans ton entrepreneur qui prototyper le fait de se donner le temps. Et après, faut aller toucher ses amours naturels, en fait. Moi, je me suis rendu compte, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, que écrire et faire du théâtre, en tout cas, la théâtralité et l'écriture théâtrale était en fait dans tous mes cahiers depuis que j'étais petite et qu'il ne fallait pas chercher midi à 14h non plus. Donc après, moi je sais que par exemple, il y a quelques années, on m'a recommandé dans ce moment-là où j'étais un peu fatiguée et où j'arrêtais pas de bosser, où ça n'avait plus beaucoup de sens, on m'a dit non mais lis des chefs-d'œuvre. Et donc on m'a mis dans les mains on m'a mis dans les mains Tolstoï, Dostoïevski, Crime et Châtiment.
Alors que t'as fait Ken Bokan, donc
Oui, mais ceux-là, je les avais pas lus. Et ouais. Ce rapport aux lettres, évidemment, était quelque chose que j'avais en moi, mais que j'avais... Lire Crime et Châtiment, qui fait 2 tomes, je peux dire que quand t'es en mode j'ai pas le temps, juste t'as pas du tout le temps.
Ouais, c'est ça.
Et donc, j'ai lu Anna Karenine, j'ai lu Crime et Châtiment, etc. Et ça ouvre énormément, en fait. Et t'apprends énormément. Et au début, ça paraît complètement décorrélé. Et tu vois pas le rapport avec ce que t'es en train de faire le matin, mais ça t'ouvre. Et je suis sûre que tous les entrepreneurs, enfin toutes les personnes, en fait, ont naturellement des sensibilités qui vont être la musique, la lecture, le théâtre, etc.
Ouais. Regarde ce que j'ai reçu aujourd'hui.
Dis-moi.
Alors, nous sommes sur Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire.
Qui t'a envoyé ça?
Moi. Je me suis fait... non, les gens ne me font pas de cadeaux, je suis désolé, je ne suis pas encore... Tu sais, quand les youtubeurs qui arrivent le matin, ils font « Oh, dis donc, on m'a offert des cadeaux ». Platon, Georgia, Thomas More, l'Utopie, René Descartes, Discours de la méthode, Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Ça m'intéresse. À mon avis, c'est un truc intéressant, mais en contre-exemple, tu vois.
Tu veux qu'on en parle?
Et comment être heureux, Schopenhauer? Tu vois, je me suis fait cette livraison en me disant, ok, il est temps de se remettre à lire.
Ok, donc, ça manque un peu de poésie et de roman quand même. Hein.
On est d'accord, mais il y en a beaucoup là aussi. Okay. Donc ça va.
Mais
c'est marrant, j'ai ce même besoin en ce moment, de me remettre à des lectures.
Complètement, et en tout cas. Les grands artistes qu'on retient, en tout cas, c'est des personnes qui se sont branchées à une forme d'essence humaine qui, si certains romans traversent les âges, si certains écrits traversent les âges, c'est qu'ils touchent quelque chose d'universel. Et on a tous besoin de se reconnecter à cet universel-là d'où on vient. Et je te disais que parfois je dis des trucs barrés, mais je tenais quand même à mentionner un truc qui me passionne, qui est l'empreinte digitale. Voilà, okay. L'empreinte digitale.
Ça te fascine.
Voilà, parce que l'empreinte digitale, pour moi, ça symbolise le singulier et l'universel. Car nous avons tous une empreinte digitale,
ouais. Mais
nous avons tous une empreinte digitale unique.
Différente.
Et donc, je dirais que ces grands artistes, en tout cas moi, c'est l'effet que ça m'a fait, quand je me suis mise à relire et à redialoguer avec ces grands artistes-là, ça m'a fait toucher quelque chose d'universel qui m'a permis de renouer avec ce qui, en moi, singulièrement, veut s'exprimer.
C'est hyper juste.
Donc, voilà ce que je dirais. Crime et Châtiment, c'est magnifique.
Ouais, vraiment. Et lisez Crime et Châtiment. moi, je vous conseille d'aller voir aussi le TEDx de J.J. Abrams, qui est le réalisateur de Lost, de Star Trek, de Star Wars.
Ouais.
Et dans son TED, il arrive avec une boîte énorme, enfin une boîte, pardon, pas énorme, une boîte comme ça, vous voyez. On a l'image, on peut en profiter.
Oui.
Et il y a un énorme point d'interrogation dessus. Et en fait, il dit voilà, en fait, mon grand-père m'achetait ça quand j'étais petit. En fait, il m'achetait plein de choses parce qu'il avait une entreprise, d'électronique. Et du coup, on passait notre temps à ouvrir des téléviseurs, ouvrir des radios pour savoir comment ça marchait à Internet. Et il dit avant de décéder, il a pris cette boîte qu'il m'a offert et il dit je l'ai jamais ouverte. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dedans, dans mon imaginaire, est beaucoup plus important que ce qu'il y a réellement dedans, en fait. Et de la même manière que toi, en fait, il y a une espèce de singulier qui fait que n'importe qui peut voir cette boîte, mais tout le monde aura un imaginaire différent sur ce qu'il y a dedans, en fait. Et c'est un peu ce que tu disais, en fait, sur... Il y a un truc qui nous touche tous, mais ce qui rend cette œuvre absolument fantastique, c'est qu'on arrive à prendre une part de l'œuvre, ils nous ont laissé de la place, en fait. Et ça, je trouve qu'en entrepreneuriat, c'est une vraie leçon aussi. J'essaye de dire ça aux entrepreneurs souvent, de dire, mais arrête d'appliquer tout et de vouloir borner 100% de ta vision à tout le monde, en fait. Et trouve un universel et fais en sorte que chacun se retrouve dedans pour qu'ils aient leur propre version de leur vision, en fait.
Il y a ça et il y a l'autre côté, justement, je pensais à ça en réfléchissant à ce soir. Je pensais au same, same, but different. Et je pensais à tous les comédiens qui vont jouer le même rôle.
Complètement.
Et pourtant, ils vont tous le jouer à leur façon. Et en tout cas, quand j'accompagne les entrepreneurs, notamment les gens qui se lancent pour la première fois, ils ont tendance à être hyper paniqués parce que ça existe déjà, il y a un autre type qui s'est mis sur le marché. Sauf qu'à un moment donné, y a la réalité du marché, hein, ne l'oublions pas. Mais il y a aussi comment toi, tu vas le faire, quoi. Et ça, je pense que c'est...
Ouais, c'est hyper important.
C'est un truc qui est hyper important et qu'on retrouve dans ce que tu mentionnes.
Et puis il y a le truc aussi de si t'as pas de concurrent, il n'y a pas de marché, donc personne n'investira sur ton projet. Donc.
C'est
bien, plus il y a de concurrent, plus ton marché est solide. Bon, c'est top, j'ai l'impression qu'il est... on est à la fin de l'émission déjà, ça passe
déjà.
Super vite.
Mais ouais, c'est cool, franchement, je pensais pas.
Tu vois?
Ouais.
Tu pensais pas que ce serait bien ou tu pensais pas qu'on...
Non, que ça passait si... Enfin,
ça passe hyper
que
vite.
Que le temps était déjà passé.
Si vous êtes toujours là et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, j'ai dit en fait, on a
bientôt
fini,
du coup
tout le monde est parti.
Ah bah non, ne partez pas.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ouais, moi je prends.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Maëva? Où est-ce qu'on peut... j'ai deux questions.
Ouais,
où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Internet ou même physiquement?
Physiquement.
Blue Factory.
À la Blue Factory ou au Social Bar.
Ok. Qui se trouve où?
Le Social Bar qui se trouve 25 rue Villiot et qui est donc la boîte que j'ai montée avec trois autres potes à Gare de Lyon. Donc voilà. Donc il faut venir au Social Bar.
D'accord.
À la Blue Factory. Et puis sinon, en ligne, Maëva Tordo sur Facebook, Maëva Bien sur Twitter. C'est à peu près...
Instagram, non
YouTube. Instagram, si, Maëva là-bas sur Instagram, je crois.
Attends, tu l'as refait? Maëva Tordo, ça, ok.
Maëva Tordo Facebook, Maëva Bien Twitter, Maëva là-bas Instagram.
Pas mal.
Eh,
il y en a de la créativité, hein. Agent, on s'ennuie parfois le soir, non. Je rigole. Bon, c'est top. La deuxième question que j'ai, c'est, tu as parlé tout à l'heure d'une œuvre littéraire que tu conseillerais. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres que tu aimerais conseiller ou d'autres... C'est quoi ton conseil majeur que tu donnerais là aux gens ce soir qui ont envie de se mettre un peu dans le même mood que toi?
Le conseil majeur...
T'as le temps, il nous reste 4 minutes, tout va bien.
Ouais. Non, il y a plusieurs... Un truc qu'il faut aller voir quand même, ça s'appelle New, N-E-W.
Okay.
Et c'est donc la fameuse...
Comme nouveau,
ouais. Mm. Ouais, en anglais.
Mm.
La fameuse troupe d'improvisation de comédie musicale avec laquelle j'ai pris des cours et ils font un spectacle qui s'appelle New et ils improvisent une comédie musicale d'une heure et demie.
C'est tellement bien.
Tout improvisé.
Ok.
C'est bluffant. C'est un truc de fou.
Et d'accord, new.com.
Donc,
peut-être pas quand même.
Non, mais il faut taper New, comédie musicale improvisée. Franchement, il n'y en a qu'une seule, le troupe. Et t'as, je crois, 5 musiciens, 5 acteurs. Un maître de cérémonie. Au début, les gens mettent des petits papiers pour donner des noms de comédies musicales. Le maître de cérémonie dit, voilà, il y a deux noms qui sont sortis, qu'est-ce que vous choisissez? Le public choisit. Et c'est parti, c'est tout improvisé.
C'est tellement bien.
C'est hallucinant.
Et bah, parfait. Et bah, si vous voulez qu'on s'y retrouve tous.
Et donc, faut aller là. et puis oui, non, mais sinon, allez chercher les grands auteurs et puis, c'est...
Tu prenais le temps, quoi.
Ouais, c'est écouter. Tout est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis en train de chercher.
On va continuer à chercher. Merci, Maëva. C'était trop cool de t'avoir là. Enfin.
Bah, merci. Ouais.
Et puis, on se retrouve à Blue Factory. Tout ça, quoi.
Ouais.
Et puis sur New. Je pense que...
On va aller...
Ça me paraît hyper bien.
Trop bien.
Nous, on se retrouve pas lundi du tout, mais on se retrouve jeudi prochain, si je ne dis pas de bêtises, pour une nouvelle conversation. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc tout va bien. On peut clore.
Voilà.
Merci à tous.
Salut.
Passez une bonne soirée et un bon week-end.
Merci.
Ciao.
Merci.